Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les principales actualités de ce jeudi 22 octobre 2020. Hommage national en France hier pour l'enseignant Samuel Paty, décapité vendredi dernier pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. À Hong Kong, la compagnie aérienne Cathay Pacific est au bord du gouffre. Elle annonce le licenciement de plus de 9000 employés. Et le pape François, dans un nouveau documentaire, se dit favorable aux unions civiles pour les personnes de même sexe. Vous êtes le visage de la République. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty, cet enseignant décapité la semaine dernière en région parisienne par un terroriste qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Ses proches, ses élèves, ses collègues enseignants ainsi que l'ensemble de la classe politique ont assisté à cet hommage qui se déroulait dans la cour de la Sorbonne. Écoutez le reportage d'Anthony Latier pour Radio France Internationale.
Un morceau de U2 retentit dans la cour de la Sorbonne alors qu'arrive le cercueil porté par la garde républicaine. Premier moment d'un hommage national singulier à un homme d'abord, mais aussi à une profession et aux valeurs qu'elle transmet. Ses anciens collègues citent Jean Jaurès.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie.
Avant qu'Emmanuel Macron ne vante un professeur passionné et humble, victime de l'ignorance et de la barbarie.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes.
Solennel et combatif, le président français fait ensuite cette promesse.
Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
À l'extérieur, la foule applaudit. À l'intérieur, 400 personnes se recueillent en silence jusqu'au départ du cercueil sur un air de Mozart.
Et pendant ce temps-là, les recherches pour établir la chronologie exacte des événements de vendredi dernier et remonter jusqu'à des complices, elles continuent d'avancer. 7 personnes ont ainsi été présentées hier devant un juge antiterroriste dans le cadre d'une information judiciaire. Et parmi ces 7 personnes, on trouve 2 mineurs, des collégiens qui ont donné des renseignements sur l'enseignant au tueur contre de l'argent. On écoute les explications de Laura Martel pour RFI.
Selon le procureur, le terroriste disposait du nom et de l'adresse du collège ainsi que du patronyme du professeur, mais n'avait pas les moyens de l'identifier formellement et c'est l'intervention des collégiens qui lui a permis de le faire. Il est environ 14h vendredi, relate le procureur, quand l'assaillant propose à un premier collégien 300 à 350 euros pour désigner l'enseignant. Le jeune accepte, reçoit une partie de la somme et patiente avec le tueur. Vers 16h, l'adolescent propose à d'autres jeunes de s'associer à sa mission. Certains partent, d'autres restent. Le collégien et un camarade donnent alors une description physique de Samuel Paty à l'assaillant, alors même que celui-ci leur a indiqué son intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper, souligne le procureur. Ces deux collégiens et le terroriste se mettent alors à l'écart, apparemment pour éviter la vidéosurveillance et une patrouille de police. Vers 17h, plusieurs adolescents, en lien avec les premiers, désignent à l'assaillant Samuel Paty au moment où il sort du collège. Le terroriste remet alors le reste de l'argent au premier collégien avant de se lancer à la poursuite de sa victime, conclut le procureur. Le parquet pourrait donc requérir la mise en examen des deux collégiens déférés pour complicité d'assassinat terroriste, un chef pour lequel la peine maximale encourue est la perpétuité, ramenée à un maximum de 20 ans pour les mineurs de moins de 16 ans.
Le coronavirus en Australie, 7 nouveaux cas aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria, 5 nouveaux cas recensés ces 24 dernières heures. La moyenne dans cet état du nombre de cas sur 14 jours continue donc de baisser. Elle est désormais à 6,1 pour la ville de Melbourne. Mais l'apparition d'un nouveau foyer d'épidémie dans le nord de la ville pourrait remettre en cause la levée de certaines restrictions prévues ce week-end. Pour sa part, Daniel Andrews rappelle qu'il est essentiel de se faire tester, même quand les symptômes sont très légers.
Even the mildest of symptoms, please come forward and get tested as soon as you possibly can. Delaying for a day can mean that the virus spreads. There's a lot about this virus that we're not certain of, and we don't want anyone to get this. If you get this, it can be very hard to shake. It can be a long-lasting chronic illness rather than a cough or a cold.
Et puis, des inquiétudes également de la part de certains habitants à Melbourne alors que la police va utiliser ce week-end des drones pour s'assurer que les restrictions concernant les rassemblements sont bien respectées, et ce malgré la finale de l'Australian Football League samedi soir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative ne plaît pas du tout à Gemma Caffarelli de l'association Liberty Victoria. Et elle n'est pas opposée au confinement. En revanche, elle désapprouve profondément l'utilisation des drones pour surveiller la population.
If the police normally wanted to check out what was going on in someone's private space, being their backyard or their home, they would normally need to comply with quite stringent laws about whether or not they can enter that space. Our concern is that the use of drones means that there's pretty much no check or balance on that process, and the police are just able to assess what's going on in people's private spaces.
Finances publiques, un comité sénatorial a auditionné hier le directeur général de notre antenne SBS, qui s'appelle James Taylor. Devant ce comité, il a expliqué avoir réinvesti 48 millions de dollars au cours des 5 dernières années, une somme dégagée grâce à un plan d'économie. Un plan d'économie qui a permis cette année, marquée par la pandémie pourtant, de réduire de 20 millions de dollars supplémentaires le montant des dépenses de l'entreprise. On écoute James Taylor.
Efficiencies through our efficiency program and cuts that we took in response to the COVID-19 crisis. To reflect, you know, increased costs that we knew we were going to incur around COVID-19, but also to reflect a significant reduction in our commercial revenues as associated with the economic impacts of COVID-19.
Et le directeur général de la chaîne ABC aussi est lui aussi actuellement en discussion avec le Sénat. Pour sa part, le directeur général d'ABC appelle le gouvernement fédéral à prolonger une enveloppe budgétaire grâce à laquelle est financée la collecte des informations et sans laquelle, d'après lui, il pourrait être contraint de supprimer encore plus d'emplois. David Anderson fait également valoir que malgré les 200 suppressions d'emplois au cours de l'année écoulée à ABC, son personnel a parfaitement su répondre aux défis posés par la couverture du coronavirus. Mais si la rédaction devait subir une nouvelle coupe budgétaire, sa mission d'information deviendrait alors beaucoup plus difficile à assurer, c'est ce qu'indique David Anderson.
We will continue to apply for the not just the extension, but also that funding to be incorporated into the ABC's base after FY 21-22.
Elle fait partie des rares compagnies aériennes qui assurent encore la desserte de l'Australie malgré la fermeture des frontières. Pourtant, Cathay Pacific est en pleine déroute. La compagnie aérienne basée à Hong Kong, pour éviter la faillite, va licencier plus de 9000 salariés. Elle a déjà perdu plus de 1 milliard d'euros depuis le début de l'année. On fait le point avec Agnieszka Kumor de RFI.
Face à la crise, Cathay Pacific ne fait pas exception. Comme ses concurrents, le fleuron asiatique est contraint de mettre en place un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 8500 emplois au total, dont 5900 licenciements secs. L'une de ses filiales, Cathay Dragon, est appelée à disparaître. Ce plan de restructuration a été salué par la bourse de Hong Kong, où l'action de la compagnie s'envolait de près de 6%. Mais la nouvelle est brutale pour les salariés. Certains d'entre eux n'ont même pas pu regagner leur poste de travail. Comme Cathay Pacific, les compagnies du monde entier ont vu leur chiffre d'affaires plonger de 80% alors qu'elles ont toujours des frais fixes importants comme les salaires, le carburant, la maintenance, les taxes d'aéroport et désormais les coûts d'entreposage de leurs avions. Mais avant même la pandémie, Cathay a été victime de la crise politique à Hong Kong, période durant laquelle les manifestations avaient considérablement réduit le nombre de passagers de Chine continentale, un marché crucial.
Un début d'ouverture au Vatican en direction des couples homosexuels, puisque le pape François, dans un nouveau documentaire qui vient d'être projeté au Festival du film de Rome, reconnaît le droit aux couples de même sexe de former une famille. Le pape François s'est déjà par le passé exprimé en faveur de l'union civile. Il reste en revanche opposé au mariage homosexuel. C'est ce qu'il rappelle dans ce nouveau film intitulé Francesco.
Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered.
Voilà, des extraits des propos tenus par le pape dans ce film qui s'appelle donc Francesco et qui a été réalisé par le metteur en scène russe Evgeny Afinitsky. Alors selon ce dernier, le pape, avec ses déclarations, ne cherche pas à remettre en cause totalement la doctrine de l'Église envers les homosexuels, mais au moins à mettre fin aux discriminations dont ils sont victimes.
He not was discussing the doctrine of the church. He not tried to change the doctrine of the church. He was talking that the people not should be discriminated and the gay community should have the equal rights like everybody else.
L'Iran et la Russie accusés d'interférer dans le processus électoral aux États-Unis. John Ratcliffe, le directeur des renseignements américains, assure que la Russie et l'Iran ont mis la main sur des informations concernant les registres électoraux et donc les électeurs. Il accuse plus spécifiquement l'Iran d'avoir envoyé des fausses informations, mais aussi des messages intimidants par email aux électeurs.
We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest, and damage President Trump. Additionally, Iran is distributing other content to include a video that implies that individuals could cast fraudulent ballots, even from overseas. This video and any claims about such allegedly fraudulent ballots are not true.
Voilà, et cette annonce intervient quelques jours après les révélations allant dans le même sens du quotidien Le Washington Post. L'email reçu par des électeurs du Parti démocrate, notamment dans l'État de Floride, prétend être envoyé par le groupe d'extrême droite, les Proud Boys, et il les appelle à voter pour Donald Trump. Pour sa part, le directeur du FBI, Chris Wray, promet d'agir de façon très agressive vis-à-vis de toute forme d'ingérence étrangère.
We are not going to tolerate foreign interference in our elections or any criminal activity that threatens the sanctity of your vote or undermines public confidence in the outcome of the election. When we see indications of foreign interference or federal election crimes, we're going to aggressively investigate and work with our partners to quickly take appropriate action.
Et déjà 4 semaines d'affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh, où les appels au cessez-le-feu n'ont pour l'instant pas été respectés par aucun des belligérants. En parallèle, des tractations diplomatiques se poursuivent. Les prochaines rencontres sont prévues à Washington, mais le président arménien a pour sa part d'ores et déjà fait savoir qu'il exclut toute solution négociée au conflit. On fait le point avec Anissa El-Jabri pour RFI.
Est-ce une réponse aux propos du président azerbaïdjanais il y a 4 jours quand Ilham Aliyev avait qualifié le Haut-Karabakh et l'Arménie tour à tour, je cite, de « chiens fascistes et bêtes sauvages ». En tout cas, le premier ministre arménien s'est adressé sur Facebook à son pays, douchant les espoirs d'une issue aux négociations. La question du Haut-Karabakh, a-t-il dit en ce moment et pour encore longtemps, ne peut avoir de solution diplomatique. Nicole Pachinian, qui sonne la mobilisation, appelle solennel, je cite, à tous les dirigeants des villes, des districts, des villages, des partis politiques, des organisations civiles, des cercles des affaires, d'organiser des unités de volontaires. Un appel aux troupes pour combattre aux côtés des soldats du Haut-Karabakh, près de 4 semaines après le premier. Signe peut-être que les pertes sont lourdes sur le front. Signe en tout cas que les Arméniens perdent du terrain. En 4 semaines de conflit, les forces azerbaïdjanaises ont conquis des territoires perdus dans les années 90. Elles s'approchent surtout de la route qui lie le Haut-Karabakh à l'Arménie, un axe essentiel pour le transport d'armes et de soldats.
Et pour terminer ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. 25 degrés à Perth où il y a aujourd'hui des nuages, 28 degrés à Adelaide où on attend un peu de pluie dans la journée, 18 degrés à Melbourne, 25 degrés à Sydney où il fait gris, 27 degrés et de la pluie dans la journée à Brisbane, grand soleil en revanche à Cairns avec 32 degrés et c'est pareil à Darwin où le thermomètre va monter aujourd'hui jusqu'à 33 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.